France Culture.
En croire la Cour des comptes, notre système de protection sociale qui célèbre cette année ses 80 ans d'existence serait aux abois. La trajectoire des comptes sociaux est devenue, je cite, hors de contrôle selon les juges de la rue Cambon. Alors pourquoi notre système de protection sociale peut-il vraiment vaciller? Comment y faire face? Quelle protection sociale pour le 21e siècle? De vastes questions pour deux invités ce soir. Bruno Hopalier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, directeur de recherche du CNRS, vous êtes directeur de recherche à Sciences Po et au Centre d'études européennes. Et vous êtes l'auteur notamment de Réformer les retraites, c'est aux presses de Sciences Po. Face à vous, François Eckhall, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien magistrat de la Cour des comptes, président de FIPECO, une association d'information sur les finances publiques, et l'auteur notamment de cet ouvrage, Mes comptes, en un mot public. C'est chez Odile Jacob. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Il faut que chacun se rende compte de la gravité de la situation. Entre 2023 et 2025, le déficit de la sécurité sociale, mesdames et messieurs les députés, aura plus que doublé. Et il y a deux phénomènes bien identifiés. D'abord, les prévisions de croissance et de recettes ont été optimistes. Et seconde cause de déficit, c'est l'absence une nouvelle fois de maîtrise des dépenses d'assurance maladie. Cette branche porte désormais à elle seule 90% du déficit total de la sécurité sociale. Ça conduit à un risque de plus en plus sérieux de crise de liquidité que nous pointons. Alors ça a fait choc, cette formule, quand nous l'avons dite, mais ce n'était pas le but, c'est la réalité.
Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes lors d'une audition devant les députés de l'Assemblée nationale, François Eckhall, est-ce que vous êtes face à cette situation budgétaire décrite par Pierre Moscovici, saisie par l'inquiétude, le pessimisme ou le doute ?
Je suis inquiet. Le premier président de la Cour des comptes a raison de dire que l'endettement de la sécurité sociale, c'est pas normal. Que l'État s'endette pour financer des investissements avec modération, c'est normal. En revanche, s'endetter pour financer des prestations sociales, c'est quand même beaucoup plus contestable. Après, je n'irais pas dire que la sécurité sociale est face à une crise de liquidité prochaine. Il y a un problème technique, juridique d'abord.
Avant ça, pardonnez-moi, je vous coupe, expliquons ce qu'est une crise de liquidité. La sécurité sociale serait incapable, de payer
aujourd'hui,
les pensions de retraite
d'emprunter, puisqu'elle est en déficit, elle a des dépenses supérieures à des recettes. L'année dernière, c'était d'une quinzaine de milliards d'euros. Donc l'année dernière, il a fallu qu'elle emprunte une quinzaine de milliards d'euros. Donc ce que veut dire Pierre Moscovici, c'est qu'elle pourrait ne plus emprunter. Alors, en principe, elle ne doit pas emprunter, puisqu'elle devrait être à l'équilibre. Donc, il y a un organisme qui est chargé de gérer sa trésorerie, qui est l'ACOS, qui chapeaute les URSSAF, que les entreprises, en tout cas, connaissent bien. Et l'ACOS peut emprunter quand même à court terme, parce qu'il peut y avoir des besoins de trésorerie, mais dans la limite d'un plafond qui est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, ce plafond, il est à 65 milliards d'euros. Donc, il y a de la marge. Il y a eu 15 milliards de déficit l'année dernière. Cette année, peut-être 20 à 25. On doit pouvoir tenir 2025 sûrement, peut-être une bonne partie de 2026. Après, historiquement, ce plafond, il a toujours fini par être atteint, parce que la sécurité sociale a quasiment toujours été en déficit au cours de ces 40 dernières années. Et traditionnellement, cette dette de la COS, elle est transférée à un organisme qui a été créé pour ça, qui s'appelle la CADES. Et pour ça, il faut une loi. Donc, soit pour relever le plafond de la COS, soit pour transférer la dette de la Sécurité sociale à la CADES, il faut une loi. Et puis, il y a un autre problème que vise Pierre Moscovici, c'est que la COS ne peut emprunter qu'à court terme. Et il peut arriver que sur ce marché des emprunts à court terme, elle ne trouve pas d'emprunteur. C'est arrivé en 2020, au moment de la crise Covid, mais à ce moment-là, l'État est arrivé à sa rescousse. La Caisse des dépôts, par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts, l'État a fait des avances à la COS. Donc je ne pense pas qu'il y ait de crise de liquidité devant nous, tant que l'État est capable d'avancer, en effet, à la COS ou la Caisse des dépôts. Mais ça pose un autre problème, qui est celui des emprunts de l'État.
On va vite y revenir, vous êtes vite entré dans le détail technique. Comme spécialiste des finances publiques, d'un mot, la COS, on rappelle ce que c'est, hein, c'est l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. C'est la caisse, en gros, qui gère les URSSAF. Et la CADES, c'est la caisse d'amortissement de la dette sociale. J'en reviens à une question plus large. Bruno Palier, est-ce que vous-même, vous êtes saisi par l'inquiétude?
Comme le rappelait François Eckel, je crois que la sécurité sociale est en déficit depuis 1975. Il n'y a pas eu d'année de surplus ou d'équilibre et elle est toujours là. Moi, je travaille depuis longtemps sur les politiques de réforme de la sécurité sociale et ce à quoi on assiste, c'est surtout à une dramatisation qui vise à pousser à prendre des décisions, ce qui est régulièrement fait, je dirais hors période électorale où là, on laisse filer les choses, mais ce qui est régulièrement fait. Ce qui est moins habituel, c'est qu'habituellement, la dramatisation elle est faite par le gouvernement pour prendre une décision. Mais là, comme on a un gouvernement qui est fragile, on va dire, le précédent ayant sauté sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est la Cour des comptes qui a endossé le rôle de dramatisation pour pousser une décision, par exemple, de passer une partie de la dette de la COS vers la CADES, mais qui nécessite une adoption. Mais rappelons quand même l'ampleur des choses, puisque Pierre Moscovici dit le déficit a doublé. Mais on peut rappeler les chiffres. Le déficit, il est prévu, il est d'une vingtaine ou 25 milliards d'euros sur des dépenses de 666 milliards, ce qui représente donc 3,3% de déficit, ce qui fait qu'on n'est pas très loin des clous de Maastricht. Et on peut rappeler que par rapport à ça, l'État, il est pour un budget inférieur à un déficit qui est deux fois plus élevé. La dette de l'État est 10 fois supérieure à celle de la sécurité sociale. Je pense que c'est dans l'ordre des choses. J'entends bien quand François Eckel dit « c'est normal que l'État s'endette pour faire des investissements, mais pas à cette aune-là. En fait, l'État s'endette aussi pour ses dépenses courantes. Et donc, je pense qu'il faut raison garder dans la dramatisation. C'est simplement qu'on n'a pas les mêmes règles pour financer le déficit public de l'État et pour financer le déficit de la sécurité sociale. Et comme depuis 50 ans, il faut dramatiser pour faire prendre des décisions. Mais de là à parler de faillite, je crois que c'est faire peur pour obtenir une décision politique. Mais à chaque fois qu'on fait peur, ça entraîne aussi des problèmes de relations vis-à-vis des médias, vis-à-vis de l'État, de la part de l'opinion publique.
On va revenir sur la dramatisation, mais il y avait deux choses quand même dans ce que disait François Eckel. Il y avait l'inquiétude d'une part, mais il y avait aussi le fait que ce déficit est anormal. Or, vous nous dites, ce déficit, dans le fond, il existe maintenant depuis un demi-siècle. Est-ce que cela veut dire qu'il faut refuser à justement tenter de le réduire, d'atteindre ce fameux 0%, Bruno Palier ?
Comme le déficit existe, mais qu'on n'a pas une explosion de la dette ni du système de sécurité sociale, c'est qu'on a fait des choses. Et pendant longtemps, les choses qu'on a faites, ça a été d'augmenter les recettes, augmenter les cotisations sociales, puis ajouter de nouvelles recettes, puisque le discours était dans les années 60, 70, encore dans les années 80, puisque les besoins augmentent, on va augmenter les recettes. Le grand changement, c'est à partir des années 90, où beaucoup d'économistes, les employeurs, disent on ne peut plus continuer d'augmenter les recettes, notamment les cotisations sociales, parce que nous sommes dans un environnement mondial où le coût du travail, sur lequel était assis le financement de la sécurité sociale par cotisations sociales, pèse trop lourd pour notre compétitivité. Je pense qu'il faudra qu'on revienne sur cette question de coût du travail et du rôle des cotisations sociales, mais en tout cas, il y a un changement de perspective, et à partir des années 90, notamment du plan Juppé, qui va changer les règles à la fois d'adoption des décisions de la sécurité sociale et de financement, puisqu'il va augmenter assez fortement les nouvelles recettes, eh bien là, on commence à insister sur le fait qu'il faut cesser d'augmenter les recettes et qu'il faut contrôler les dépenses. Le problème, c'est que les gouvernements n'arrivent pas vraiment à faire baisser les dépenses. Ils arrivent au mieux à limiter l'augmentation des dépenses de retraite et de santé, tout en augmentant, en fait, d'une certaine façon, les recettes. Ce qui ne s'est pas passé au cours des dernières années, c'est qu'on a transformé le mode de financement de la sécurité sociale. Donc, on avait beaucoup de cotisations sociale qui finançait 80% des dépenses jusque dans les années fin des années 80, début des années 90. Aujourd'hui, ça n'est plus que la moitié. Donc, les autres ressources de la sécurité sociale, c'est les impôts, c'est de la TVA, c'est des contributions de l'État. Et elles augmentent moins vite que n'augmentent les salaires et donc les cotisations sociales. Donc, on n'a pas fait suivre le rythme d'augmentation des recettes par rapport au rythme d'augmentation des besoins.
On va y revenir. Je vous interroge, François Eckel, sur une dimension plus politique soulevée par Bruno Palier. Est-ce qu'il y a en effet des effets de manche de la part de la Cour des comptes, une volonté de dramatiser ce débat ? Vous nous direz pourquoi, si c'est le cas ?
De manière plus générale, d'abord le déficit de la sécurité sociale et la dette de la sécurité sociale, ils sont inclus dans le déficit public et la dette publique, qui pour moi sont en fait beaucoup plus importants, parce que quelque part, ce déficit public, ces dettes publiques sont portées essentiellement par l'État, comme on l'a dit, et l'État est le garant, d'une certaine façon, de la capacité par la sécurité sociale de continuer à s'endetter.
Donc c'est le dernier payeur,
c'est
si
le dernier
jamais
payeur, c'est le payeur en dernier ressort. Donc tout le problème pour moi, il est là. Mais pour ce qui est justement de ce problème, moi, contrairement à la Cour des comptes où j'étais, je lui ai toujours dit quand j'y étais, faut pas dire on est au pied du mur, parce que on sait qu'il y a un mur devant, mais on sait pas à quelle distance il se trouve. Le mur, c'est le jour où les créanciers de l'État commenceront à s'inquiéter, demanderont à ce moment-là des taux d'intérêt beaucoup plus élevés qui seront insoutenables et ce jour-là, tout dépendra de ce que fera la Banque Centrale Européenne. Elle a les moyens de nous aider, comme elle l'a fait pour les pays du sud de l'Europe en 2011-2012, mais elle ne l'a fait qu'en contrepartie de mesures très difficiles et très douloureuses. Donc l'enjeu, il est là. Mais je ne sais pas si ça va arriver demain, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Personne n'en sait rien. Donc ça peut durer encore longtemps.
Et donc lorsqu'Aurélien Rousseau, député Place Publique, dit c'est toujours Pierre et le Loup avec la Cour des comptes, il se confiait au journal Le Monde. À la longue, on n'entendra plus les alertes. Vous êtes d'accord avec
ça ? Je suis d'accord. Moi, j'ai toujours dit à la Cour, quand j'y étais, ne dites pas, ne criez pas trop au loup, parce que si le loup n'arrive pas, on va finir par ne plus vous croire, alors qu'il y a bien un loup, il y a bien un loup quelque part.
Alors, dans ce déficit qui se creuse, Bruno Palier, il y a, comme dans tous les déficits, un sujet de recettes et un sujet de dépenses. Attardons-nous justement sur cette question des dépenses, dont beaucoup pointent les excès. Comment se fait-il que gouvernement après gouvernement, mandat après mandat, on a du mal à réduire effectivement ces dépenses structurelles, notamment dans le champ de l'assurance maladie, qui encapsule une très très large part de ce déficit, plus de 90%.
Alors, les dépenses sociales dont on parle, les dépenses de protection sociale ou de sécurité sociale, elles sont constituées par plus de 45% des dépenses de retraite et un peu plus de 40%, 42% par des dépenses d'assurance maladie. Donc c'est là que se situe le plus gros des dépenses. C'est un peu compliqué de dire qu'elles sont excessives dans la mesure où ces dépenses correspondent à des besoins. D'une part, payer des retraites.
J'ai dit que beaucoup disaient cela. Hein.
Oui, mais je ne parlais pas de vous, je parlais de... Qu'est-ce qu'on veut dire par excès ? Puisque les dépenses de retraite, qu'est-ce qui justifie des dépenses de retraite ? Bah, des gens qui partent à la retraite. Il se trouve qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont nés après 1945, jusqu'au début des années 70, s'appelait le baby boom, et que maintenant on est en plein papy boom, c'est-à-dire qu'ils sont en train de partir à la retraite. En gros, on a entre plus 700 et plus 800 000 départs en retraite par an. Donc voilà, c'est la situation. Ces gens-là, ils ont travaillé, ils ont payé des cotisations, ils ont le droit à de la retraite. Donc dire que c'est excessif, hein, je rappelle, en 5 ans à peine, on est passé de 16 millions à 17 millions de retraités, on va bientôt passer à 18, 19, voilà, jusqu'à 2035, on a le papy boom en termes de départ, de nombre de personnes qui partent à la retraite. Après, ils vont rester encore à la retraite une vingtaine d'années.
Mais donc ça, c'est un effet de structure démographique, on ne peut pas y faire grand-chose.
C'est un effet de structure démographique, on peut faire quelque chose à dire, eh ben, vous aurez moins de retraite. C'est d'ailleurs ce qui s'est, en fait, est déjà dans les tuyaux, puisque les réformes de retraite adoptées depuis 1993 jusqu'aux dernières ont prévu que le niveau des retraites reçues par chacun par rapport aux cotisations et au nombre d'années va être moins élevé que ce qui est actuellement servi aux retraités, mais ça se verra. Alors ça commence un petit peu à se voir, mais ça se verra beaucoup dans 10-15 ans. Et d'ailleurs, on voit bien que malgré l'augmentation du nombre de retraités, les projections disent que la part prise par les dépenses de retraite dans le PIB, c'est-à-dire 14%, ne va pas évoluer. Alors même que le nombre de retraités évolue. Ce qui veut donc dire que le niveau des retraites va baisser, soit parce que les gens partiront plus tard, soit parce que les retraites qu'ils touchent sera moins élevé. En fait, c'est un peu des deux qui va se passer. Du côté de l'assurance maladie, il y a quand même un effet mécanique aussi du vieillissement de la population. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vit plus longtemps qu'on dépense plus, mais c'est parce qu'on a plus de personnes âgées. On consomme plus quand on est âgé, on a plus de personnes âgées. C'est la même chose que cette histoire de papy boom. Donc plus de personnes qui sont en fin de vie, qui sont sous médication importante, qui sont ce qu'on appelle en ALD, affection de longue durée. Et donc là, on a aussi un effet mécanique. Est-ce que c'est excessif ? Il se trouve une chose que je tiens à rappeler, c'est qu'en 1945, quand on a fait la sécurité sociale, on a dit on va couvrir ces besoins. On va mettre en place un système qui assure la sécurité du lendemain et le besoin sera premier. Ce qu'il faut comprendre dans la logique de la sécurité sociale française, c'est que vous avez des droits parce que vous avez payé des cotisations. Vous avez, en matière de maladie, des droits maintenant universels. Parce que vous êtes malade, vous avez le droit d'être soigné. Et donc, après, on se demande comment on finance pour répondre à ces droits. Et aussi bien Ambroise Croizat, le ministre communiste de la Sécurité sociale de 1945, que Pierre Larocque, le haut fonctionnaire qui, tous les deux, ont mis en place, ont fondé ce système, ils ont dit, les deux, ça doit d'abord être le besoin qui détermine les choses, et ensuite on trouvera les ressources. Et comme je le disais tout à l'heure, on a augmenté les cotisations sociales. Donc là, aujourd'hui, on est confronté à ce débat-là. Est-ce qu'on veut encore aujourd'hui que notre système de sécurité sociale réponde aux besoins, ou on estime que les besoins sont excessifs? Là, j'entends les petites musiques de l'assistance, des abus, etc. L'assistance, c'est donc l'aide aux personnes pauvres, c'est même pas 5% des dépenses de protection sociale. Donc, c'est pas là que ça joue. On va parler des taxis, des transports, etc. Mais là encore, c'est pas la majorité des dépenses. C'est résiduel. Alors, on peut évidemment faire des efforts là-dessus, mais c'est pas le cœur du problème en termes de besoins. On reviendra sur des réformes structurelles qui pourraient faire que le système fonctionne mieux, donc dépense un peu moins parce qu'il fonctionne mieux sans réduire la réponse aux besoins, mais le cœur du problème, il est là.
Je reviens tout de même sur ce que pointait François Eckhall, le rapport de la Cour des comptes. Ce que je disais un peu plus tôt, la branche maladie, donc l'assurance maladie, qui porte aujourd'hui 90% du déficit. Encore une fois, comment est-ce qu'on l'explique? Le vieillissement de la population, le développement des ALD, des affections de longue durée, tout cela, c'est prévisible. Et alors, les rapports le disent depuis le début des années 2000.
Alors, pour reprendre ce qui vient d'être dit et replacer ça dans le cadre plus général, sur les 40 dernières années de mémoire, les dépenses sociales en pourcentage du produit intérieur brut ont dû augmenter de 4 ou 5 points. Bon. Or, quel que soit le mode de financement de la sécurité sociale, qu'on la finance par des cotisations, par de la TVA, par tout ce qu'on veut, les ressources en question ne peuvent pas augmenter beaucoup plus vite que le produit intérieur brut. Peut-être un peu plus certaines, un peu moins pour d'autres, mais pas beaucoup plus. Donc, on a un problème de financement régulier, hein, parce que les dépenses augmentent plus vite que l'activité et donc que les ressources. Alors régulièrement, dans le passé plutôt, en effet, on a augmenté les taux des cotisations, puis des impôts, mais on ne peut pas faire ça indéfiniment. Aujourd'hui, on a le taux des prélèvements obligatoires le plus élevé de l'OCDE. Alors ça finit par poser quand même des problèmes de compétitivité. C'est pas sans rapport avec le fait qu'on a un déficit commercial persistant depuis une vingtaine d'années, qu'on a des problèmes de désindustrialisation. Donc, on finit par avoir un problème, donc on atteint des limites. Donc, même s'il y a des besoins, même si, en effet, on peut considérer que le vieillissement de la population explique, en effet, une partie de ces dépenses, il y a un moment où il faut les freiner.
La faible compétitivité, elle est le fruit, j'allais dire, de dépenses sociales élevées, ou elle est, le fruit du fait que ces cotisations, enfin, ces dépenses sociales pèsent d'abord sur le travail, plus que sur les contributions?
Le financement, ce n'est pas les dépenses sociales en elles-mêmes, c'est le financement de ces dépenses sociales pèse en effet essentiellement aujourd'hui, mais aujourd'hui ça n'est plus que la moitié d'ailleurs, les cotisations sociales, un peu moins même que la moitié,
48%.
Et pour le reste, les cotisations sociales, et pour le reste en effet c'est des impôts. Mais les impôts, ce sont pas beaucoup de ces impôts, sont quand même des impôts qui pèsent plus ou moins sur les entreprises, en partie sur les entreprises, et qui affectent en effet leur compétitivité.
Ce qui nous amènera un peu plus loin sur le débat de la TVA sociale. Bruno Palier, vous souhaitiez réagir?
Oui, parce que je pense que ce débat, il est faussé. On insiste depuis les années 80 sur le coût du travail pour expliquer tous les maux de la France. On a du chômage parce que le coût du travail est trop élevé. On n'arrive pas à exporter parce que le coût du travail est trop élevé. Et ce coût du travail, c'est sous-entendu les cotisations sociales. Et depuis une cinquantaine d'années, donc, ou depuis une quarantaine d'années, on baisse les cotisations sociales, en tout cas sur les salaires les moins élevés. Là, on les baisse beaucoup, puis progressivement, on baisse un peu moins, même si aujourd'hui, on va jusqu'à 3,5 SMIC sur ces baisses de cotisations sociales. Pour autant, ça n'a pas restauré notre compétitivité, alors même que désormais, le coût du travail réel payé par les entreprises, tel que comparé par l'OCDE ou d'autres grands instituts statistiques, il est le même, voire inférieur, par exemple, à celui de l'Allemagne. Moi, ce que je trouve étrange, cette insistance sur le coût du travail et donc sur les cotisations sociales et donc sur la sécurité sociale, c'est de ne pas se poser une question très simple. Pourquoi diable les Allemands arrivent-ils à vendre des voitures aussi chères?
Parce que c'est des bonnes voitures.
Parce qu'ils ont joué la qualité. Et donc,
c'est la compétitivité hors prix.
Et ben voilà, ça s'appelle comme ça, la compétitivité hors prix, et on n'arrive pas à en parler en France. On ne parle que de la compétitivité prix, on est obsédé par le coût de la sécurité sociale, et ça, on ne questionne pas la stratégie économique de la France. Où est-ce qu'on va faire de la qualité? On ne questionne pas la stratégie des entreprises, on ne questionne pas nos dépenses publiques, on dépense moins en France sur les recherches et développement, on dépense moins en France sur l'éducation primaire comme de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas les moyens d'être une économie de la qualité. Et pourquoi? Parce qu'on est obsédé par cette histoire de coût du travail, mais maintenant il faut dresser le bilan. Ça fait 40 ans qu'on lutte contre le coût du travail, on exonère de 75 milliards par an de cotisations sociales, on n'a pas les résultats escomptés ni en termes de création d'emplois, ni en termes de compétitivité, donc il faut peut-être changer de braquet. Une dernière parenthèse, parce que je disais que les recettes n'ont pas suivi les dépenses. Donc François Hickel dit on ne peut pas augmenter plus vite que le PIB. Si on décide qu'on veut accorder plus de moyens aux retraites, à la santé ou à l'éducation d'ailleurs, on peut décider de le faire, c'est une décision politique. Mais surtout, rappelons que les recettes qui viennent de l'impôt, de la TVA, augmentent moins vite à la fois que les dépenses, mais que les recettes cotisations sociales, puisque les salaires augmentent plus vite que les prix qui eux-mêmes déterminent un certain nombre des choses, comme la TVA par exemple. Mais rappelons aussi que depuis quelques années, les exonérations sociales, les exonérations de cotisations sociales, 75 milliards, ne sont pas intégralement compensées par l'État. C'est aussi dans le rapport catastrophiste de la Cour des comptes.
Il faut expliquer concrètement ce que ça veut dire. Voilà. Depuis 2017, la baisse des cotisations sociales, il n'y a pas d'équivalent en termes de hausse des recettes sur les impôts notamment.
Voilà, on a commencé à faire beaucoup de baisses de cotisations sociales à partir de 1993 sous Édouard Balladur, et en 1994 on a passé une loi qui garantissait que l'État s'engageait à toujours compenser, rubis sur l'ongle, donc un franc pour un franc et désormais un euro pour un euro, les exonérations. Donc la Sécu ne devait pas perdre de financement. Et depuis quelques années, il a été décidé de ne pas intégralement compenser. Et donc, c'est moins 5,8 milliards qui n'ont pas été compensés, moins 5,1 en 2023 et moins 5,5 en 2024. Donc là, on a quand même un quart, 25%, puisqu'il faut donner des chiffres qui font peur, 25% du déficit qui n'est pas compensé par l'État, donc qui ne remplit pas ses obligations.
François Hickel, justement, sur ce défaut de compensation, comment est-ce qu'on l'explique? Et d'ailleurs, comment est-ce que le gouvernement lui-même le justifie?
Mais je ne suis pas d'accord avec ce défaut de compensation. On peut discuter.
C'est la Cour des comptes elle-même.
Compensation, milliards d'euros.
C'est la Cour des comptes elle-même qui le pointe.
Mais globalement, on a affecté à la sécurité sociale des ressources qui augmentent pas beaucoup moins vite que les cotisations sociales. Et pour revenir au problème de compétitivité, vous dites, on ne voit pas le résultat de ces allègements de cotisations sociales. On le voit pas, parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ces allègements de cotisations sociales depuis 1993? Parce qu'en France, on a un SMIC qui est particulièrement élevé. Plus élevé en pourcentage du salaire moyen ou médian, c'est le plus élevé d'Europe. Donc, ça pèse sur les entreprises, donc on a compensé. Ensuite, mais le SMIC, on a continué à l'augmenter. Donc, en fait, on fait des allègements et on continue à augmenter le SMIC. Donc, ce qui en fait limite l'effet de ces allègements. En plus, en 2000, on est passé de 39 heures à 35 heures, en décidant que ces 35 heures seraient payées 39 heures, ce qui automatiquement augmentait le coût du travail au niveau du SMIC. C'était pas tenable, et donc les principaux allègements de cotisations sur les bas salaires, ils ont eu lieu à cette époque. C'est Martine Aubry qui a décidé la principale augmentation des allègements de cotisations sur les bas salaires.
Il y a eu en contrepartie, Fillon ensuite.
Après, Fillon a consolidé au cours des années suivantes.
Le CICE.
Le principal mouvement. Après, il y a eu le CICE. C'était moins.
Le crédit d'impôt.
Rapporté en euros de l'époque, c'était moins que les allègements Aubry.
On a compris le débat de ce point de vue-là. D'ailleurs, il y a quand même, une convergence entre vous deux, une convergence sémantique. Vous parlez tous les deux de cotisation et non de charge. C'est heureux. Je voudrais vous faire entendre la voix du président de la République lors de son interview à TF1. C'était le 13 mai dernier.
L'idée, la piste que suit M. Picon, qui est de dire on doit alléger ce qui pèse sur le travail, est bonne. Mais je pense que c'est plutôt vers les cotisations qu'il faut aller chercher que vers les contributions. Et donc, ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je souhaite que le gouvernement lance ce travail avec les partenaires sociaux pour qu'on réforme le financement de notre modèle social et qu'on ait un modèle social qui soit moins financé par le travail et davantage sur d'autres facteurs, en particulier la consommation. Parce que quand on regarde nos voisins, certains taxent davantage la consommation. La consommation, c'est les touristes qui les payent, c'est parfois les entreprises avec les chèques restaurants, c'est les gens les plus aisés. Si on a des taux de TVA pour les biens de première nécessité qui sont bien préservés, je pense que c'est mieux.
Si on lit entre les lignes Emmanuel Macron, il parle sans le dire de TVA sociale, c'est-à-dire l'idée d'affecter une fraction de la TVA, de la taxe sur la valeur ajoutée, aux dépenses de la sécurité sociale. Ce sujet refait surface, Bruno Palier, bonne ou mauvaise solution selon vous ?
D'abord, rappelons qu'il y a déjà une partie du financement de la sécurité sociale qui repose sur les recettes de la TVA. C'est celles qui ont été utilisées pour compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale au moment du passage du CICE en exonération de cotisations sociales, donc pour l'équivalent de 20 milliards, un peu plus de 20 milliards. Donc je crois que ce à quoi il fait allusion, c'est une augmentation de la TVA pour augmenter les recettes de la sécurité sociale, avec éventuellement en face une baisse des cotisations sociales. Rappelons encore une fois que aujourd'hui, la France finance sa sécurité sociale seulement à moitié par les cotisations sociales, c'est-à-dire qu'elle rejoint très largement la moyenne des pays de l'OCDE. Alors qu'on partait effectivement d'une situation financée beaucoup par cela. La deuxième chose,
donc ça pèse pas tant sur le travail, c'est ce que vous voulez dire ?
Ça pèse moins aujourd'hui que ça n'a pesé sur le travail, c'est très clair. On est à 48% de financement, c'est des financements tout. Alors déjà moins élevés par les cotisations qu'en Allemagne, et les pays nordiques commencent à tendre vers ce type d'équilibre. Mais c'est quand même surprenant d'entendre dire que c'est les riches qui payent la TVA, puisque ce qui est bien connu au cours de première année d'économie, c'est que la TVA est un impôt régressif, puisqu'elle pèse sur la consommation. Les ménages pauvres dépensent tous leurs revenus en consommation, ils n'ont vraiment pas les moyens de faire de l'épargne, ils ont même du mal à finir leur mois, donc des fois ils s'endettent, alors que les riches dépensent seulement une portion congrue de leurs revenus dans la consommation, le reste allant à l'épargne et à l'investissement. Donc c'est un impôt régressif dans la mesure où proportionnellement, la TVA pèse beaucoup plus sur la consommation des ménages modestes que sur les ménages risques.
Et c'est une évidence, et je le rappelle, tout le monde paye par construction le même taux de TVA.
Voilà, tout à fait. On peut le cibler, c'est ce à quoi il fait allusion. On peut cibler des taux de TVA en fonction des produits constatés. On a d'ailleurs trois taux en France.
Mais pas du consommateur.
Mais on cible pas en fonction du consommateur. Et l'impact sur le budget, il est beaucoup plus fort sur les budgets les plus modestes, c'est bien connu.
Votre point de vue sur l'augmentation donc de cette TVA sociale, François Eycal ?
Alors d'abord, je pense que le projet qui est en discussion, on sait pas très bien, mais en tout cas, par exemple, celui qui est porté par le MEDEF, c'est pas d'augmenter la TVA pour financer la protection sociale, c'est de remplacer à l'euro près, ou quasiment, de remplacer des cotisations sociales patronales par de la TVA, ce qui est un vieux projet d'ailleurs qui est discuté depuis très très longtemps, ce qui économiquement permettrait de réduire les coûts des entreprises, sachant que les cotisations sociales en France, rapportées au PIB par exemple, pèsent quand même plus encore que dans la moyenne des pays européens, et plus particulièrement les cotisations patronales. Malgré tous les allègements, même en déduisant tous les allègements de cotisations, les cotisations patronales restent quand même plus élevées en moyenne en France. Donc il s'agit de remplacer des cotisations patronales par de la TVA. L'idée, c'est que si vous baissez les cotisations patronales, vous réduisez les coûts de production des entreprises, et si en contrepartie vous augmentez la TVA, bah, vous taxer les importations comme la production nationale et à l'exportation, il n'y a pas de TVA. Donc en fait, c'est une mesure qui peut favoriser la compétitivité et que les économistes considèrent comme équivalent à une dévaluation. Les dévaluations, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. La France a fait l'expérience de dévaluation avant d'entrer dans l'euro qui ne marchait pas toujours très bien. Donc les effets, pour moi, ça peut avoir des effets positifs, mais qui sont quand même du second ordre et limités, alors que par ailleurs, il est vrai que la TVA a des effets anti-redistributifs, qu'elle pèse plus sur les ménages de revenus modestes. Donc pour moi, l'urgence, même si ça peut avoir un certain intérêt économiquement, c'est pas ce qui est prioritaire aujourd'hui. Je reviens à ce que je disais au début. Pour moi, aujourd'hui, le problème, c'est le déficit public, la dette publique et les risques que nous prenons. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est de réduire le déficit public globalement et à l'intérieur du déficit public, celui de la sécurité sociale. C'est pas de faire des jeux de bonnes taux entre eux, en remplaçant la masse salariale par la consommation ou je ne sais pas quoi d'autre. peut-être ça peut avoir un intérêt. Si on était dans un, si on était il y a 30 ans ou 40 ans avec beaucoup moins de déficit et de dette, on aurait pu l'imaginer. Aujourd'hui, c'est plus la priorité.
Bruno Palier, exercice contraint cette fois-ci. S'il fallait réduire les dépenses sociales, là encore, il y a une espèce de consensus dans cette direction. Où est-ce que des marges existe véritablement, notamment dans le champ de l'assurance maladie. On voit, on sent que c'est quand même très très compliqué de faire des réformes de structure qui produisent sur le moyen terme de véritables réductions de dépenses.
Alors moi j'ai fait des comparaisons des systèmes de santé et on peut observer que à structure démographique équivalente, c'est-à-dire voilà avec un nombre de personnes âgées
en masse et en âge
à structure d'état de santé relativement équivalent, bon, les Français vont un petit peu moins bien que d'autres, mais en tout cas à structure quasiment égale, on peut arriver à répondre aussi bien aux besoins, voire un petit peu mieux, c'est-à-dire avoir de meilleurs résultats collectifs de santé qu'on mesure alors pas vraiment l'espérance de vie, parce que ça mesure pas bien l'efficacité du système santé. L'espérance de vie, ça mesure votre hygiène de vie, ça mesure votre environnement, ça mesure un peu aussi votre métier, vos milieux sociaux. Mais par exemple, la mortalité infantile, par exemple, le nombre de décès liés à des maladies parce qu'on n'a pas su les prendre avant, mortalités précoces, par exemple. Là, la France est moyenne dans ses résultats, alors qu'elle est au-dessus du lot en matière de dépenses. Donc on a
elle est même très mauvaise en matière de mortalité infantile.
C'est tout
4,1 morts pour 1000, c'est catastrophique.
C'est catastrophique. Là, on mesure une relative inefficacité du système. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est inefficace. Moi, ce que je sais, c'est que c'est les systèmes nationaux de santé, donc les systèmes qui considèrent que la santé, c'est un service public. Donc c'est l'État qui finance, c'est l'État qui décide beaucoup de choses, qui alloue les recettes, qui dit aux médecins où ils doivent s'installer, oh là là. Voilà, qui décide collectivement de la rémunération, du niveau de rémunération des médecins. Et je tiens à les rassurer pour les auditeurs d'aujourd'hui, les médecins anglais, les médecins suédois gagnent beaucoup plus que les médecins français en moyenne. Donc on peut très bien allouer la rémunération des médecins de façon publique, en service public, et ça ne veut pas dire qu'ils gagneront moins. Simplement, il n'y aura pas des gens qui gagneront des millions, comme certains en France, et d'autres qui gagneront à peine le SMIC, comme les internes qui débutent dans le système de santé français. Voilà, on a un problème de régulation du système de santé, ça c'est très clair. Ça vient de quoi ? Ça vient du fait qu'on a une médecine libérale qui veut avoir toute liberté d'installation, de prescription, de tarification, etc., alors même que les trois quarts de ses revenus proviennent d'un système public, la sécurité sociale. Et on a un système qui, progressivement, a mis en concurrence l'hôpital public avec les cliniques privées. Ce sont deux logiques qui sont inflationnistes, qui génèrent des dépenses sans doute un petit peu inutiles.
François Eckhall, même consigne pour tous ce soir. Comment est-ce que vous-même vous tentez de réduire la dépense ?
Moi, je parlerai plutôt des dépenses de retraite. Les travaux du corps montrent qu'en effet, le ratio...
Du conseil d'orientation des retraites.
Le conseil d'orientation des retraites montre qu'en effet, le ratio des dépenses de retraite au PIB se stabilise à très long terme, à l'horizon de 30 ou 40 ans, mais pas dans les 10 prochaines années. Dans les 10 prochaines années, ça va augmenter, et donc on a un déficit croissant qui s'annonce dans les prochaines années. Et pour répondre à ce défi, je pense qu'il faut s'arranger... faire en sorte que l'âge de départ effectif des Français à la retraite recule. On peut discuter des moyens, on peut utiliser, il y a plusieurs instruments disponibles, il y a l'âge minimal, la réforme de 2023 jouait surtout sur l'âge minimal, mais on peut aussi jouer sur le nombre d'années de cotisation requises pour avoir le taux plein, la décote, la surcote, il y a d'autres, voilà, il y a plusieurs instruments possibles, mais l'objectif, à mon avis, doit être le même, c'est de faire en sorte que les Français partent plus tard. Et la réforme de 2023, elle ne va pas conduire parce que, à côté du recul de l'âge minimal, il y a des choses favorables sur les carrières longues, des choses comme ça. Et donc, le recul moyen de l'âge de la retraite qui est dans une dizaine d'années, qui résulterait de la réforme de 2023, c'est, je crois que c'est 8 mois, si je me souviens bien. Donc, c'est pas énorme. Et ça nous laisserait quand même bien en deçà des âges de la retraite qu'on constate dans les autres grands pays. Donc, je pense que c'est une bonne mesure, c'est parce que je pense que reculer l'âge de départ à la retraite, ça conduit à augmenter la population active. Et quand on augmente la population active, on finit plus ou moins vite par augmenter l'emploi, l'activité économique. économique. Donc c'est une mesure qui permet non seulement de réduire les dépenses publiques, mais surtout, en fait, beaucoup plus d'augmenter les recettes, parce que ça fait plus d'activités et plus de recettes à la fois pour les caisses de retraite, mais aussi les autres branches de la sécurité sociale, les collectivités locales, l'État, etc.
Je le disais en introduction de cette émission, Bruno Palier, François Eckel, on célébrera cette année les 80 ans du système de protection sociale français. Est-ce que ce système aujourd'hui est adapté au monde contemporain, à ses enjeux? Je pense notamment à la question du vieillissement, de la dépendance, de l'autonomie. On a créé en 2021, on s'en souvient à peine, une cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative, celle-ci, à l'autonomie. Encore une fois, est-ce que ce système est adapté? Vous avez malheureusement presque une minute chacun, une grosse minute chacun, Bruno Palier.
Au moins, il a le mérite d'exister. Il n'est sans doute pas suffisamment financé, mais il doit aussi poser la question du fait qu'il est prêt à financer n'importe quel prestataire, y compris des prestataires privés dont on a pu voir les dérives d'entreprises qui cherchent à faire du profit sur le dos des personnes âgées dépendantes avec les catastrophes que l'on a connues à Orpea. Peut-être là aussi qu'il faut revenir à un sens du service public, pas seulement dans le financement, mais aussi dans les prestations. Mais c'est peut-être pas là qu'il est le plus inadapté, puisqu'il y a eu des initiatives qui ont été prises, et les premières institutions sont là. Les problèmes, c'est pourquoi les femmes sont encore à toucher deux fois moins de retraite de droit direct que les hommes. Donc le mode de calcul ne tient pas compte des profils de carrière très différents des femmes et des hommes. Pourquoi on continue d'avoir un âge qui est équivalent, alors que l'espérance de vie des cadres et des ouvriers reste très importante, même si elle a un tout petit peu diminué au cours des deux, trois dernières années, ça reste entre 5 et 6 ans. Pourquoi les jeunes ne bénéficient de quasiment pas de protection sociale? Ils doivent demander à papa-maman jusqu'à 25 ans. Pourquoi les moins qualifiés sont-ils les plus à risque de chômage, les plus à risque de précarité? Voilà les grandes questions qui se posent. Et puis, la question à 100 000 euros de l'avenir, à 100 millions d'euros de l'avenir, c'est les enjeux climatiques, qui ont aussi des conséquences sociales. Tout le monde n'est pas touché de la même façon par un événement climatique. Tout le monde ne ressent pas non plus le même prix à payer des politiques environnementales. Et là, il y a de la redistribution sociale à penser, de la prévention à penser aussi.
Une bonne idée d'émission, ça, le lien entre protection sociale et réchauffement climatique. François Eckel, vos grandes questions, non pas pour les 80 prochaines années, mais pour maintenant.
Alors, je pense que le système social français, le modèle social français reste adapté et doit être préservé. Mais il faut qu'on arrive à admettre que si les besoins sociaux sont illimités, on aura toujours besoin d'une meilleure santé. Si les besoins sont illimités, les ressources, elles, ne le sont pas. Parce que on a une activité qui croît en fonction des gains de productivité, qu'on ne va pas étendre de manière indéfinie. Et on ne peut pas augmenter indéfiniment le taux des cotisations ou des impôts. Donc, sans remettre en cause le modèle, il y a des paramètres sur lesquels on peut jouer. Donc, j'ai parlé des paramètres qui permettent de faire évoluer l'âge de départ à la retraite. Donc, il faut jouer sur ces paramètres pour arriver à maintenir la progression des dépenses sociales. Elles vont continuer à augmenter, hein. Il n'y a aucun risque qu'elles diminuent. Donc, elles vont continuer à augmenter, mais qu'il faut qu'elles augmentent à un rythme suffisant pour qu'elles puissent être financées, que ce soit par des cotisations de la TVA ou n'importe quelle autre ressource, par des ressources qui ne peuvent pas augmenter, elles, indéfiniment.
Merci beaucoup à tous les deux de cette discussion, de ce débat. Bruno Palier, politiste, directeur de recherche au CNRS, à Sciences Po, au Centre d'études européennes. François Eckel, ancien magistrat de la Cour des comptes, exigeant avec son ex-employeur, et président de FIPECO, l'association d'information sur les finances publiques.